Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti.
Bienvenue dans cet épisode court de Quad Meuf. Cette semaine, on a bingé une série qui est une super prod française Netflix qui s'appelle Drôle. Vous avez sûrement dû voir les affiches de cette série qui sont un peu partout dans le métro en ce moment. C'est une production où l'on suit plusieurs comiques qui se passent le micro dans un comédie club parisien. L'occasion de montrer combien le rire est politique. On en parle cette semaine avec Anne-Laure. Salut Anne-Laure.
Coucou Pauline.
Ça va ?
Ça va super.
Avant de commencer, merci à Cosette, notre partenaire média, de soutenir Quad Meuf. Cosette, c'est le magazine féminin reconnu comme magazine d'infos politique et générale. Vous pouvez retrouver leur prochain numéro en kiosque à partir du mercredi 27 avril.
Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur, il me dit « Ah, désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. » Ça n'allait pas être bien. Bienvenue au drôle. Je fais du stand-up.
Du coup, t'es drôle, quoi.
J'essaye, quoi.
Parfois, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
Tu veux faire du stand-up?
Je sais plus qui tu es.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le plot de cette série ?
Alors, le Drôle Comedy Club, c'est une petite scène comme il en existe d'état pour celles et ceux qui connaissent Paris ou les grandes villes. Et sur les planches, les comédiens et comédiennes se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, il y a Bling, qui est joué par Jean Thiven, qui est le frère des proprios et qui a eu son heure de gloire à un moment, mais qui ne fait vraiment plus personne. Ces blagues sont archi problématiques.
C'est clair.
Il y a Nézir, joué par Younes Boussif, le discret surdoué de la blague, archi charmant par ailleurs. Il y a Aïssatou, Maria Maguey, la star montante. Et Apolline, Elsa Gage, la jeune femme pas si sage qui se voit déjà passer du public à la scène. Tous et toutes luttent à leur manière pour faire leur place dans le stand-up, qui est, pour le rappeler, un genre comique qui implique de rire de soi et de sa communauté dans un contexte ultra compétitif. C'est un gros jeu d'équilibriste et les sous sortent toujours des mêmes poches, à savoir les poches des gros gars blancs qu'on voit dans la série.
Complètement, d'ailleurs, on va y revenir. C'est un des points, je trouve, intéressants de cette série, de voir les coulisses un petit peu des productions de ces spectacles. Donc, c'est une série qui se découpe en 6 épisodes d'une quarantaine de minutes à peu près. Et donc l'intrigue, effectivement, va se nouer autour de ces quatre personnages qui sont liés par l'amitié et aussi par un début de romance pour deux d'entre eux. On vous dira pas lesquels. Ils et elles vont avoir tour à tour des moments de fame ou des gros moments de lose. Et effectivement, comme tu l'as dit, dans ce contexte de course au succès, ils vont parfois se faire la courte échelle entre eux ou se décevoir. Et donc ça fait des épisodes au rythme assez enlevé, à l'écriture assez efficace à mon avis, et qui va injecter l'humour des sketchs dans le scénario. Il y a donc des grands thèmes comme la loyauté en amitié alors que chacun rêve de se retrouver sur le devant de la scène, mais aussi les dilemmes entre carrière et vie personnelle, par exemple avec le personnage d'Aïssatou qui va parler en fait du plaisir prostatique de son mec sur scène et le sketch va buzzer et celui-ci est très gêné, mais comme la vidéo du sketch fait 1 million de vues, elle la laisse en ligne et c'est ce qui va la propulser en humoriste à succès.
Non, moi franchement, je voulais juste vous parler d'une petite conversation que j'ai eue avec mon copain l'autre soir. Bah, on reparlait un petit peu des meilleurs moments de notre relation. Et on n'a pas su se dire hein, si le moment le plus fort, c'est le jour où on s'est dit qu'on s'aimait, ou le jour où je lui ai mis un doigt dans le cul pour la première fois. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Hein ? Non, mais en vrai, moi, je pense qu'on l'avait jamais fait avant parce qu'on n'était pas au courant que c'était aussi bien, en fait. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Non, mais c'est vrai, il n'y a personne qui nous dit comment faire. Personne. Même moi, au début, j'étais perdue. Enfin, j'étais perdue. Non ! Non, attendez, non.
Il y a aussi, parmi les thèmes abordés, la question de l'écriture de l'ombre ou de la lumière, avec le personnage de Nézir, qui lui est issu d'un milieu pauvre, et qui va se retrouver en fait à écrire des blagues dans une émission bien rance et bien voyeuriste pour gagner sa vie. Et ça va poser aussi plein de questions qu'on va aborder.
Nézir qui par ailleurs fait aussi du Deliveroo. D'ailleurs bravo pour la victoire.
Tout à fait. Deliveroo vient d'être condamné à une grosse amende pour ne pas avoir salarié ses employés. Alors, en quoi elle est intéressante, cette série, selon toi ?
Déjà, on peut commencer par sa showrunneuse, Fanny Herrero. C'est un peu la showrunneuse française à succès. On n'en a pas 36. Hein. D'abord, pour Kabul Kitchen, elle a participé à l'écriture de cette série qui était vraiment super. On peut aussi dire Le Village français, qui a quand même eu un gros succès en France. Mais surtout, 10% quand même, la série de ouf qu'on a tous et toutes regardé ces dernières années, qui aujourd'hui fait son petit chemin de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, avec Fanny Herrero, évidemment, c'est une flopée de super talents qui se sont réunis dans une salle d'écriture pour écrire, donc une salle d'écriture, une writer's room, comme on dit aux États-Unis, peuplée de super beaux mondes, les humoristes français Charles Soignon, dont on connaît bien les sketchs, Jason Brokers, le Suisse Thomas Wiesel et la Belge Fanny Ruet, mais aussi, et on l'adore, Marina Rollman et Lison Daniel, qu'on voit sur Instagram avec les caractères et qui est juste absolument hilarante.
C'est clair.
En dehors de cette writer's room, il y a aussi, dans cette série, un gros focus sur les personnages qui sont vraiment super bien pensés, super bien écrits, qui sont pas du tout monolithiques, même si on peut quand même le dire, la happy end préside et les gros cons quand même ont toujours un peu droit au salut. Ce qu'on adore, c'est que la série en si peu d'épisodes parvient quand même à aller au bout des choses concernant l'écriture humoristique à notre époque. C'est un peu Nézir qui nous amène à cette réflexion-là dans une analyse hyper bien ficelée du risque que c'est de rire de soi quand on est une minorité. Ça peut renforcer les stéréotypes au lieu de les combattre. D'ailleurs, ça c'est Anna Gatsby qui l'avait vachement bien montré dans son premier spectacle. Elle s'était finalement rendu compte que dans ses sketchs, elle se présentait systématiquement mal, qu'elle se moquait d'elle-même et qu'elle se moquait de sa communauté et que finalement, c'était pas si positif que ça, bien au contraire. Donc, elle avait décidé d'arrêter ça. Et on le voit dans la série, c'est vraiment super.
Ouais, bah c'est vrai qu'on sait jamais comment l'humour va être reçu de l'autre côté et si ces blagues vont pas être réutilisées comme un humour oppressif, même si l'intention n'était pas celle-ci. C'est hyper intéressant. Et donc, puisqu'on parle de minorité, on peut souligner que dans Drôle, 3 têtes d'affiche sur 4 sont des personnages racisés et il faut souligner que leurs positions sociales ne sont pas ignorées. En tout cas, à mon avis, le show n'est pas colorblind, c'est-à-dire qu'on va parler de ce sujet sans non plus le rappeler systématiquement, mais c'est un sujet et il y a une volonté de représentativité des minorités qu'on retrouve souvent dans les productions Netflix, mais ici dans un contexte français. Et ces éléments sont amenés dans les stand-up des personnages avec Bling qui parle de sa famille vietnamienne immigrée en France, ou encore Nézir qui parle souvent de son père algérien qui est au chômage et dont il s'occupe. Et donc, effectivement, comme tu le dis, ça pose la question de rire de soi en parlant des stéréotypes. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Bling au début de la série, et c'est très très gênant. Enfin, je vous passe la blague à base de levrette et de bol de riz qu'il fait et qui est vraiment horrible.
Atroce.
Ensuite, il va justement changer son écriture pour changer ce regard. Et globalement, les garçons de la série vont parler de leur statut d'enfant d'immigré, que ce soit en parlant de la déception familiale vis-à-vis du fait d'être humoriste, ou au contraire le rêve de l'Olympia pour Nézir qui est quand même soutenu par son père. Ils incarnent un peu cette génération à qui on a dit de faire profil bas, mais qui, eux, sont pas d'accord avec ça et qui vont se battre contre cette injonction. Et d'ailleurs, je pense que c'est un très bon point de la série qui est qu'on voit évidemment le racisme qui traverse les institutions médiatiques et culturelles, donc c'est-à-dire au niveau des décideurs, en fait, toujours les mêmes, comme tu as dit. Donc, le producteur d'Aïssatou qui va lui demander de ne pas être trop militante pour pas trop effrayer les gens. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le producteur de l'émission de télé pour laquelle bosse Nézir, lui, c'est le festival des blagues racistes, sexistes. Et on peut dire, du coup, que dans cette série, il y a quand même une dose d'intersectionnalité dans l'écriture qui, à mon avis, est intéressante et pas juste un procédé pour cocher des cases, comme c'est parfois le cas chez Netflix, je pense.
Ouais, et je peux me permettre petit truc. Il y a une super scène où, justement, Aïssatou tout contrevient à l'ordre qui lui est donné, donc elle décide de faire une blague politique, et ce qui est chouette, c'est que sa blague tombe à plat. La belle histoire, ce serait que le public adhère, que le public la soutienne, or je trouve ça chouette de montrer que tout le monde n'est pas encore déconstruit. Tout le monde ne voit pas ce qui se cache derrière les violences policières, donc c'était bien de le montrer aussi.
Ouais, ça pose vraiment la question de l'intention et de la réception, et du fait que le stand-up s'insère dans un contexte politique, en fait, qui est ce qu'il est, effectivement pas très déconstruit globalement. Et justement, le sujet va se poser effectivement avec Aïssatou, qui est concentré sur sa carrière et qui va se retrouver un petit peu coincé entre ses aspirations à être célèbre et ses propres valeurs. Et donc, il y a une scène très intéressante où elle est avec sa sœur, qui est jouée par Karidja Touré, qu'on a vu dans Bande de filles de Céline Sciamma. Et donc, les deux femmes se font contrôler par des policiers alors qu'elles sortent d'une séance de stylisme avec des gros sacs de shopping. Sous-entendu, elles sont vues par les policiers comme si elles avaient volé leurs achats. Et en fait, Aïssatou va un peu calmer les choses en faisant un selfie avec les policiers qui vont la reconnaître. Et là, sa sœur pète un câble en lui disant « mais ça va pas ». Et elle lui enjoint en fait de profiter de sa popularité pour dénoncer les violences policières, justement. Et Aïssatou va en tirer un stand-up assez génial sur le privilège blanc. Mais effectivement, c'est pas trop du goût de son producteur et elle va pas forcément réussir à le faire.
Un personnage complètement différent d'Aïssatou, et je pense que c'est à vrai. Dessein, c'est le personnage d'Apolline. Elle, elle incarne plutôt le sacro-saint thème de la classe sociale, car elle vit avec sa mère riche et envahissante, qui a prévu pour elle une carrière prospère, un cursus honorum dans le monde du marché de l'art, où elle gagnera moult pépettes et où elle épousera un homme absolument plat.
Ennuyeux.
Et elle, son rêve depuis qu'elle est minot, c'est de faire du stand-up. Elle est extravagante et on la voit à travers les yeux de Nézir, qui retrouve un peu dans son envie les balbutiements de sa propre carrière. Il la regarde aussi prendre des drogues avec ses copines riches, ce qui est totalement en décalage avec sa propre vie. Cette Apolline, elle a des blagues assez gênantes. Elle est elle-même humainement un peu spé, mais ça la rend absolument hilarante et très rafraîchissante. Et son personnage permet aussi, en plus de la classe sociale, de parler aussi de la sexualité et des humoristes femmes qui écrivent sur la sexualité. Par exemple, elle écrit un sketch sur les filles qui se frottent sur la selle de leur cheval pour se masturber, entre autres. Et Apolline, comme beaucoup de comédiennes féministes aujourd'hui qui parlent de cul, se confrontent à des difficultés. Il se trouve qu'en France, on a un petit problème avec les comédiennes qui parlent de cul. Pour le coup, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Elles vivent dans l'ombre de Blanche Gardin, celle qui, en premier lieu, a eu un succès dans ce micro-domaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les scènes de stand-up, on considère que s'il y a déjà eu Blanche Gardin, alors il n'y a pas de place pour les autres. Ça, je dis ça parce que j'ai interviewé récemment Rosa Burstein, qui en parle dans son livre « Les mecs que je veux ken ». Elle a eu du mal, justement, à faire sa place parce qu'on lui disait toujours « Il y a déjà Blanche Gardin qui fait des blagues de cul.
Bon. » Oui, alors qu'on veut bien des blagues de cul d'autres humoristes que Blanche Gardin, sincèrement.
Clairement.
J'aurais dû me douter que le gars était un psychopathe, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il sautait des lignes dans ses messages sur Tinder. Mais qui fait ça ? Pour qui te prends-tu, connard ? Pourquoi pas des alinéas ? Et puis il avait... Non mais regardez, il avait une petite pochette en cuir dentelé dans laquelle il rangeait son gel hydroalcoolique. Ah, c'est les maniaques. Et puis il portait des cols roulés alors qu'il est pas gaulé. Faut dire aux gars hein, qui ont pas de bras, qui ont pas d'épaule, faut leur dire non, mais pas un col roulé, mais un sweat, quoi. Il avait pas une vision honnête de lui-même. Il était là, je suis un joli garçon.
Alors il y a quand même des choses qu'on regrette dans cette série. Par exemple, qu'il ne soit pas assez question de l'écrasante majorité des gars dans ce milieu-là. Parce qu'il suffit de se promener dans les rues pour voir le nombre d'affiches de one-man show. D'ailleurs, ça s'appelle encore vraiment souvent des one-man show, ce genre-là. On le comprend un peu par touche. Par exemple, les blagues hyper sexistes de Bling qui passent un peu crème pour certaines. Ou cette espèce de producteur mielleux qui a des dollars à la place des yeux. Certes, par touche, c'est amené, mais on aimerait bien qu'on en fasse un peu plus des caisses.
D'ailleurs, même si c'est bien écrit, il y a d'autres petits écueils à mon avis. Par exemple, la prévisibilité de pas mal d'arcs narratifs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense et qu'on perd un peu l'enjeu de la série au fil de la narration. Parfois, c'est peut-être un peu trop du prêt-à-consommer Netflix avec les grosses ficelles qu'on connaît. Et bon, après, petit détail, mais à mon avis qui n'en est pas un, il y a des incohérences toutes Netflixiennes, si on peut dire, sur la vie parisienne. Par exemple, Aïssatou et Nézir qui mangent de la bouffe avec des baguettes à Belleville en marchant. Alors, moi, j'ai jamais vu aucun parisien faire ça, personnellement. Ou alors, quand Désir commande de la sauce piquante dans un kebab, donc pareil, je crois pas qu'on dit ça. Enfin,
c'est... Et même l'appartement d'Aïssatou, enfin, son mec est chercheur, oui. elle est humoriste.
Ils ont un magnifique appartement.
80 mètres carrés, on se croirait dans Emily in Paris.
Exactement, je crois que Netflix a pas compris le contexte des intermittents du spectacle parisien, et surtout le prix des loyers. Et puis, il y a même Apolline, à un moment, qui prend un taxi qui surgit de nulle part. Ah, c'est mon taxi! C'est très drôle et c'est pas très cohérent. Et enfin, je trouve aussi que certains sketchs du Drôle Comedy Club sont vraiment pas drôles. Certains auraient mieux fait d'être coupés au montage, à mon avis.
Ou alors c'est carrément fait exprès. C'est vrai qu'il suffit de passer une petite soirée dans un comedy club, il y a boire et à manger, quoi.
Ouais, t'as raison, c'est peut-être pour ça.
Toi, c'est quoi ton opinion personnelle en dehors de ces petites anicroches ?
Alors, malgré ses défauts, j'ai quand même trouvé ça bien écrit dans l'ensemble. Surtout, j'ai adoré le charisme des acteurs et des actrices qui, je pense, sont vraiment géniaux, qui font tenir toute la série. Passion pour Younes Boussif, donc le personnage de Nézir, qui est vraiment adorable. Il a un côté un peu personnage romantique à la Kechiche, mais sans le male gaze. Il incarne une masculinité qui n'est pas du tout toxique et une vraie gentillesse, mais sans que ça le rende trop lisse, en fait. Et j'ai aussi beaucoup aimé les sous-intrigues du scénario qui portent sur l'intimité des personnages et qui amènent des scènes intéressantes. Par exemple, les scènes de sexe, globalement, sont bien. Apolline, qui se masturbe pendant un rapport sexuel et ça va perturber son partenaire et elle lui explique que sa main n'est pas en compétition avec sa bite. Ça, c'est très drôle. Et lui, lui, il essaie de comprendre, il entend ce qu'elle dit, et c'est quand même très cool à voir, et ça redonne un peu espoir dans les hommes, je pense. Même si il est perturbé, mais je pense que ça reflète une certaine réalité quelque part. Il y a aussi le rapport d'Aissatou avec son compagnon Vlad, qui est aussi le père de sa fille, et tous les deux sont filmés dans leur amour, mais aussi dans leur clash lié à l'ascension d'Aissatou dans le stand-up. Donc ça, j'ai trouvé ça assez juste. J'ai quand même eu un peu peur au début que Aissatou soit un peu trop cynique ou qu'elle soit présentée comme la femme méchante, mais je trouve que finalement le scénario finit par entrer en empathie avec elle et on comprend très bien qu'elle a une position particulière qui est qu'elle a mis sa carrière entre parenthèses pour élever sa fille aux côtés de son mec qui lui-même écrivait sa thèse et désormais elle se dit c'est mon tour, elle veut saisir cette opportunité professionnelle et je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans cette situation. Et par ailleurs, il y a une scène d'avortement qui est très très bien, je pense, sans pathos. Par contre, dernier petit point négatif, moi je suis pas très fan en fait du traitement réservé à Bling parce que je trouve que ce personnage est très maltraité et il retombe dans ses travers jusqu'au bout de la série et c'est censé parfois être drôle alors que c'est quand même assez tragique et je trouve que c'est pas assez souligné alors qu'à mon avis il incarne des sujets quand même assez graves comme les addictions ou la déprime post-succès façon BoJack Horseman et je pense que ça aurait pu être traité avec plus de bienveillance.
Ouais, voilà, ce soir tu vas pas jouer parce qu'en fait je veux jouer à ta place, ok? J'ai pas compris. Je passe après, c'est tout. Ok.
De quoi? Là, là?
Ouais. Bah, mon public me réclame.
Je leur manque trop.
Mais pourquoi? Ça fait des mois que tu joues pas et là, d'un coup, maintenant, il faut que tu joues?
Non, non, mais on va pas s'embrouiller pour ça. Ok. C'est bon.
Mais pourquoi moi? J'ai fait quoi?
Mais rien. Fallait juste prendre quelqu'un, c'est comme ça, c'est tout.
Attendez, les gars, il se passe quoi là?
Il se passe que le mec qui confond le stand-up avec une envie de pisser, il vient de prendre ma place là, en fait.
T'auras ta part du chapeau, c'est bon, profond.
T'as raison, il fait vraiment tiep plus qu'autre chose. Et c'est vrai que le parallèle avec BoJack Horseman, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est limpide. D'ailleurs, même, on le voit avec l'intérieur de Bling, son petit appart un peu de parvenu avec sa collection de baskets, ça fait vraiment penser à BoJack et ses peintures hors de prix.
Ouais, et c'est dommage parce que l'acteur, il est génial en fait. Et toi alors, t'en penses quoi de la série?
Bah moi je l'ai avalé, comme j'avais d'ailleurs dévoré Family Business, une autre production française sur Netflix. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas semblant d'être américain, comme par exemple Marseille. Bon d'accord, il y a des grosses ficelles, mais quand même je trouve que c'est bien français. C'est une série qui raconte la France d'aujourd'hui, la France populaire aussi pour une fois, parce que le stand-up c'est un art populaire. Et ça fait du bien. Il n'y a pas de champagne à gogo, pas de voiture de prix ou de comédiens hyper connus. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, on voit ce que c'est que l'économie des personnes qui se lancent en stand-up. Il faut faire du Deliveroo le soir, il faut sacrifier ci, sacrifier ça, il faut galérer, il faut imprimer soi-même ses affiches, il faut gérer les caractères horribles des producteurs à la petite semaine, bref. Je trouve que le personnage d'Apolline est super intéressant parce qu'il parle de quelque chose qu'on croirait vraiment relégué à l'époque de Molière, dans certains milieux favorisés, dits favorisés. En tout cas, faire le comédien, c'est un peu frapper du sceau de la déchéance sociale, et surtout le comédien d'humour, et surtout quand on est une femme. Il y a une scène particulièrement choquante, où voilà, on dirait que sa mère va tomber dans les pommes, quoi.
Ouais.
C'est comme si, je sais pas, elle avait choisi le travail du sexe pour certaines personnes, qui est aussi considéré très très mal. Donc, si je peux me permettre une micro-pub, dans le prochain numéro de La Déferlante, il y aura un super dossier sur le rire féministe, auquel j'ai participé par ailleurs, et je vous encourage donc à l'acheter.
Trop intéressant, hâte de le lire. Merci Anne-Laure.
Merci Pauline, à plus.
Quoi de meuf est un podcast de nouvelles écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo, journaliste chroniqueuse Pauline Verdusier,
Anne-Laure Pinault.
Mixage et montage Laurie Galigani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.